Deux jours avant la fausse alerte. Avant-poste d'observation numéro 1 du dispositif d'alerte du système solaire. L'avant-poste d'observation numéro 1 correspondait en réalité à la station Ringer-Fitzgerald, qui datait de la fin de la Grande Crise. 70 ans plus tôt, c'était dans cette station qu'avaient été détectées pour la première fois les sondes d'observation à interaction forte, les gouttelettes. La station se trouvait toujours à la limite extérieure de la ceinture d'astéroïdes, mais ses équipements avaient été entièrement modernisés. On avait par exemple radicalement élargi la surface des miroirs dédiés à l'observation de la lumière visible. Le diamètre du premier miroir était passé de 1200 à 2000 mètres, si bien qu'on aurait presque pu y faire tenir une bourgade tout entière. Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces énormes miroirs avaient été directement extraits de la ceinture d'astéroïdes. Le premier à avoir été construit était de taille moyenne, d'un diamètre de 500 mètres environ. Une fois achevé, il avait temporairement servi à concentrer les rayons du soleil sur les astéroïdes pour faire fondre les roches, dans le but de fabriquer de nouveaux miroirs. Chacun d'eux dessinait une immense rangée suspendue qui se prolongeait dans l'espace sur 10 kilomètres. La distance entre chaque miroir était immense, ce qui donnait l'impression qu'ils étaient indépendants et n'appartenaient pas à un même ensemble. La station Ringer-Fitzgerald était installée pour sa part à l'extrémité de cet ensemble. L'avant-poste était minuscule, il ne pouvait accueillir que 2 individus. Comme à ses débuts, la station comptait à son bord un tandem composé d'un officier militaire et d'un scientifique. Le premier avait pour tâche le travail de surveillance propre au dispositif d'alerte, et le second celle de conduire des recherches astronomiques et cosmologiques. Par conséquent, les disputes qui avaient eu lieu jadis entre le général Fitzgerald et le docteur Ringer au sujet de la répartition du temps d'observation se poursuivaient encore 3 siècles plus tard. Quand sa construction fut terminée, le plus grand télescope de l'histoire permit pour la première fois d'obtenir l'image d'une étoile située à 47 années-lumière. Weinar, l'astronome de la station, était aussi excité que s'il avait assisté à la naissance de son propre enfant. Les non-initiés ignoraient souvent que lorsque les anciens télescopes astronomiques observaient des étoiles hors du système solaire, ils se contentaient d'amplifier leur luminosité, mais n'étaient en mesure de révéler aucune forme. Quelle que fût la taille du télescope, les étoiles restaient donc des points, quoiqu'un peu plus brillants. Mais maintenant, dans le champ visuel de ce super télescope, se dessinait la forme ronde d'une étoile. Elle était certes aussi petite qu'une balle de ping-pong vue à des dizaines de mètres et ne comportait aucun détail, mais c'était un instant qui ferait date dans l'histoire de l'astronomie optique. « L'astronomie vient enfin de soigner sa cataracte », lança Weinar, le visage en larmes. Le lieutenant Vassiliev, responsable du dispositif d'alerte, n'était pas impressionné. « Si je peux me permettre, tu devrais te rappeler qu'ici nous ne sommes que de vulgaires sentinelles. Dans le passé, on nous aurait placés sous la guérite en bois d'un poste frontière au milieu d'un désert ou d'une plaine enneigée, sans âmes qui vivent tout autour. Notre mission aurait consisté à fixer la direction de l'ennemi en grelottant de froid. Et dès que nous aurions aperçu des cavaliers ou des tanks à l'horizon, nous aurions allumé un feu ou passé un coup de téléphone pour prévenir de l'invasion ennemie. Il va falloir que tu t'y fasses. Cesse de prendre cet avant-poste pour un observatoire astronomique. » Les yeux de Weinar quittèrent un instant l'écran du terminal qui affichait l'image donnée par le télescope. Il jeta un coup d'œil derrière un hublot de la station, mais ne vit flotter à l'extérieur que des blocs de roches irréguliers, des fragments de météorites ayant servi à fabriquer les verres des miroirs. Ils pivotaient lentement dans les rayons froids du soleil, soulignant davantage encore la nature désertique de l'espace, ce qui évoquait effectivement les paysages imaginés par le lieutenant. « Si nous détectons réellement une particule de lumière, » annonça Weinar, « le mieux sera encore de ne pas donner l'alarme, parce que ça ne servirait à rien, quoi qu'il arrive. Quand on y pense, c'est une chance de pouvoir mourir d'un coup sans que l'on s'y attende. Et toi, tu voudrais torturer d'angoisse des milliards de gens pendant 24 heures? C'est un crime contre l'humanité. Si je te suis, nous sommes donc les moins chanceux d'entre tous? La station d'observation reçut de l'état-major de la flotte solaire l'ordre d'ajuster le télescope de manière à pouvoir observer les derniers vestiges du système trisolarien. Cette fois, Weinar ne trouva rien à redire. L'astronome aussi éprouvait un grand intérêt pour ce monde dévasté. Tous les miroirs suspendus commencèrent à pivoter pour régler leur position. Les moteurs ioniques installés à leur extrémité émirent des petites flammes bleues. Ce n'était qu'à l'occasion de telles manœuvres que la distance entre les miroirs du télescope se révélait, esquissant dans l'espace l'aspect global du supertélescope. Cet ensemble de miroirs long de 10 kilomètres pivota lentement et se figea lorsque le télescope fut pointé dans la direction du système trisolarien. Chaque lentille se déplaça alors sur son axe pour une dernière focalisation. Puis les points bleus s'éteignirent, à l'exception de quelques-uns qui scintillaient encore comme des lucioles, procédant à de derniers ajustements. Dans le champ visuel du télescope, l'image non encore traitée du système trisolarien paraissait parfaitement banale. Ce n'était qu'une petite étendue blanche devant le fond de l'espace, comme une plume dans la nuit. Mais une fois que l'image fut traitée et agrandie à la taille de l'écran, elle dévoila une magnifique nébuleuse. L'étoile avait explosé depuis déjà 7 ans, et il contemplait donc la scène telle qu'elle était 3 ans après l'explosion. Sous l'effet de la gravité et du moment cinétique laissé par l'étoile détruite, la nébuleuse était passée d'un ensemble de rayonnements foudroyants à un amas de nuages flous qui, écrasé par la force centrifuge de sa rotation sur lui-même, apparaissait sous la forme d'une spirale. Surplombant la nébuleuse, on pouvait voir les 2 autres étoiles du système. L'une d'elles avait l'aspect d'un disque, tandis que l'autre n'était toujours qu'un point lumineux lointain dont seul le mouvement pouvait la distinguer des autres. Les 2 étoiles qui avaient survécu à la catastrophe réalisaient dès lors le rêve de bien des générations de trisolariens en composant un système stable à 2 étoiles. Mais aucune créature vivante ne viendrait plus jouir de leurs rayons, car ce système était devenu impropre à la vie. À observer maintenant le système de Trisolaris, on comprenait que si la particule de lumière n'avait détruit qu'une seule étoile sur 3, ce n'était peut-être pas seulement à une fin économique, mais pour une raison encore plus cruelle. Tant que demeurerait 1 ou 2 étoiles dans le système, toute la matière de la nébuleuse ne cesserait d'être aspirée par celle-ci. Durant ce processus, une grande quantité de radiation très intense serait produite. Le système trisolarien était devenu un four à radiation, une plaine de mort pour toute vie et toute civilisation. C'était ces rayonnements puissants qui faisaient scintiller la nébuleuse, la faisant apparaître si claire et si brillante.
Ça me rappelle les nuages que j'avais contemplés lors d'une nuit passée sur le mont Emei, s'exclama Vassiliev. Au sommet de cette montagne chinoise, on a une vue extraordinaire sur la Lune. Cette nuit-là, du pied de la montagne jusqu'au pic, tout était submergé par un océan infini de nuages éclairés par les rayons de la pleine Lune. C'était une merveilleuse étendue argentée. Ça ressemblait à ce que nous voyons maintenant.
En contemplant ce cimetière d'argent situé à 40 billions de kilomètres, Weinar était lui aussi saisi d'émotion.
En fait, d'un point de vue scientifique, parler de destruction n'est pas tout à fait correct, reprit l'astronome. Rien n'a réellement été détruit et encore moins disparu. La quantité de matière n'a pas changé et le moment cinétique est toujours le même. C'est simplement la disposition de la matière qui a divergé, un peu comme si on avait rebattu les cartes. La vie est une canne flush royale, mais ici, les cartes ont été remélangées.
Weinar observa une nouvelle fois l'image en détail et il fit alors une découverte cruciale.
« Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ? » lâcha-t-il en pointant une région du ciel située à environ 30 unités astronomiques du centre de la nébuleuse.
Vassiliev fixa l'endroit. Cependant, ses yeux n'étaient pas aussi experts que ceux de l'astronome et il ne repéra rien au premier coup d'œil.
mais après un moment, il parvint à distinguer sur le fond noir d'encre du ciel des contours vagues qui dessinaient une forme grossière, comme une bulle de savon.
Ça a l'air énorme. Le diamètre doit bien faire 10 unités astronomiques.
De la poussière interstellaire?
Impossible. Les nuages de poussière n'ont pas cette forme.
Tu as déjà vu quelque chose comme ça?
Jamais.
Ce truc est transparent et ses frontières sont floues.
Jamais nos vieux télescopes n'auraient pu en détecter un.
Weinar effectua un nouveau zoom arrière pour essayer de jauger la position relative de l'objet vis-à-vis des deux étoiles et de la nébuleuse. Il voulait en profiter pour savoir si l'on pouvait observer ainsi sa rotation. Une nouvelle fois, la nébuleuse redevint dans le champ de vision une étendue blanche sur fond noir. À ce moment précis, il découvrit une autre bulle de savon, à une distance d'environ 6000 unités astronomiques du système de Trisolaris. Elle était même plusieurs fois plus grosse que celle qu'il venait de voir. Son diamètre devait être de 50 unités astronomiques environ. Elle aurait pu contenir le système solaire ou celui de Trisolaris. Weinar en informa aussitôt Vassiliev.
« Bon Dieu !» cria Vassiliev, abasourdi.
« Tu te souviens à quoi correspond cette région ?» Weinar sonda un moment l'endroit. «
Est-ce l'endroit où la seconde flotte trisolarienne est passée en vitesse de la lumière ?»«
Oui.
Tu es sûr ?»«
Ma dernière mission consistait à observer cette zone de l'espace. Je la connais comme ma poche. »
C'était d'une évidence limpide. Un vaisseau propulsé par courbure laissait des sillages derrière lui.
La première des deux bulles, beaucoup plus petite, avait été découverte à l'intérieur du système trisolarien. Sa présence pouvait avoir plusieurs explications. Peut-être les trisolariens ignoraient-ils à l'origine que la propulsion par courbure laissait des traces et que celle-ci avait été occasionnée au cours de leur premier essai de vol ou d'utilisation d'un moteur à propulsion par courbure. Ou bien il connaissait pertinemment les conséquences de ce phénomène, mais avait provoqué ces sillages par accident. Une chose était néanmoins certaine. Ils n'étaient pas dans leur intention de laisser de telles traînées. Ils avaient probablement dû essayer de les éliminer, mais en vain. 11 ans plus tôt, si les vaisseaux de la deuxième flotte de Trisolaris avaient passé une année entière en vol régulier avant d'enclencher leur moteur à propulsion par courbure à une distance de 6000 unités astronomiques de leur étoile mère, c'était pour que ces sillages soient le plus loin possible de leur système. Et ce, même s'il était déjà trop tard à ce moment-là. Cette action de la flotte trisolarienne avait à l'époque suscité la perplexité chez les humains. L'explication la plus convaincante donnée jusqu'ici consistait à dire que les trisolariens avaient voulu éviter que l'énergie déployée par les 415 vaisseaux passant en vitesse luminique n'ait un impact sur leur système. Weinar et Vassiliev comprenaient aujourd'hui qu'ils voulaient en réalité éviter que les sillages laissés par la propulsion par courbure ne révèlent la position de leur système. C'était aussi la raison pour laquelle la deuxième flotte avait quitté la vitesse luminique 6000 unités astronomiques avant d'atteindre le système solaire. Weinar et Vassiliev se dévisagèrent. Leurs regards trahissaient une angoisse commune. Ils étaient parvenus à la même conclusion.
« Il faut immédiatement faire un rapport, » dit Weinar.
« Mais ce n'est pas encore l'heure. Si nous le dressons maintenant, ils vont croire à une alarme. »
« C'est une alarme. Il faut avertir les humains de ne pas révéler notre position. »«
Tu ne surréagis pas un peu? Les recherches sur la propulsion par courbure viennent à peine de commencer. Nous serons déjà chanceux si nous arrivons à construire un vaisseau luminique dans le demi-siècle qui vient.
Mais si de tels sillages étaient laissés dès la première tentative, peut-être même que ce genre d'essai est en ce moment même en train d'être mené quelque part dans le système solaire. »
Aussi, cette information fut transmise à un niveau d'alarme par faisceau de neutrinos à l'état-major de la flotte solaire, avant d'être transférée au Conseil de défense planétaire. Ce fut lors de ce deuxième envoi que le message fut mésinterprété comme une alarme d'attaque de particules de lumière, entraînant 2 jours plus tard un mouvement de panique à l'échelle de toute la planète. Les sillages de la propulsion par courbure avaient été laissés après le passage en vitesse luminique. C'était comme des traces de brûlures laissées sur une plateforme de lancement par une fusée après son décollage. Une fois la vitesse atteinte, les vaisseaux naviguaient le reste du voyage en inertie, si bien qu'ils ne laissaient plus aucune trace. On pouvait raisonnablement en déduire que des traces similaires étaient donc laissées lorsque ceux-ci repassaient en vitesse infraluminique. On ignorait encore pour l'heure combien de temps ces traînées pouvaient demeurer dans l'espace. Certains supposaient qu'il s'agissait de déformations spatiales induites par la propulsion par courbure et qu'elles subsisteraient très longtemps, voire toujours. Les hommes avaient des raisons d'en conclure que c'était à cause de ces sillages de propulsion d'un diamètre de 10 unités astronomiques laissés par les vaisseaux dans leur système que, comme un tel Lectra l'avait dit, le système trisolarien apparaissait plus dangereux que le système solaire aux yeux d'un observateur lointain. C'était probablement aussi la raison pour laquelle Trisolaris avait été frappé si rapidement. Conjugué à la diffusion des coordonnées, l'existence des sillages témoignait de la dangerosité extrême du système trisolarien. Dans le mois qui suivit, l'avant-poste d'observation numéro 1 fit la découverte de 6 autres sillages de propulsion par courbure ailleurs dans l'espace, tous de forme sphérique, avec des diamètres variant beaucoup, de 15 à 200 unités astronomiques, mais présentant toujours une morphologie similaire. Parmi ceux-ci, il en était un qui ne se trouvait qu'à 6000 unités astronomiques du système solaire et avait de toute évidence été laissé par la deuxième flotte trisolarienne quand elle était sortie de la vitesse luminique. La position et la direction des autres sillages ne correspondaient en revanche pas aux trajectoires prises par la flotte trisolarienne. Tout semblait donc indiquer que la navigation permise par la propulsion par courbure existait communément dans l'univers. Après la découverte des fragments quadridimensionnels par l'espace bleu et le gravité, ces traces fournissaient une autre preuve directe de l'existence d'un grand nombre de civilisations intelligentes dans le cosmos. Un autre sillage avait été découvert à 1,4 années-lumière seulement du Soleil, non loin du nuage d'Oort. Il avait de toute évidence été laissé par un vaisseau spatial s'étant jadis arrêté en cet endroit, avant de repasser en vitesse luminique. Il était cependant impossible de savoir quand cela s'était produit. La découverte des traces laissées par la propulsion par courbure porta un coup fatal au projet vaisseau luminique, qui faisait déjà face à un scepticisme grandissant. Les flottes internationales et les Nations Unies promulguèrent rapidement une loi interdisant à tous les pays de conduire des recherches et des expériences sur la propulsion par courbure. C'était la plus sévère prohibition d'une technologie depuis le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires datant de 3 siècles plus tôt. Il ne restait désormais plus que 2 voies de survie pour l'humanité. Le projet Bunker et le projet Champ Noir.